Écho des colonies, Georges Kamoudjova.
C'est toute l'équipe qui est heureuse de vous retrouver dans cet espace dédié à l'économie de la RDC. Jocelyne Moussaou nous apporte les nouvelles.
Nous serons dans deux minutes à Lubumbashi où les taxes divisent les autorités du Katanga et Tinkepungurume Mining. Le co-reportage en seconde partie à Kinshasa où des petits marchés pirates naissent, grandissent et se transforment en grands marchés. Ce sera Berry Vuchaka et Kaziragi.
Et dans 10 minutes, entretien à suivre avec Adélar Minene, directeur de COPEC Imara, une institution de microcrédit qui vient d'enregistrer 400 nouveaux membres à Goma. Ça peut être un signe de relance dans ce secteur qui n'a pas été épargné par la crise économique en cours. Commençons par un tour du pays. La Banque mondiale s'engage à acheter 500 000 tonnes de carbone en RDC.
Elle achètera auprès de la société Novacel Esperel, une entreprise de droit congolais œuvrant dans le plateau de Bateke. Cette entreprise produit ce carbone à travers le reboisement. La signature du contrat de vente crédit carbone a eu lieu aujourd'hui à Kinshasa. 4 dollars américains, c'est le prix de la tonne de carbone contenue dans le bois.
Et le second trimestre a été rose pour Wajima Mining. Le minier a produit plus de cuivre qu'il n'attendait.
Elle attendait 4000 tonnes et demie de cuivre. La compagnie a fait un surplus de 750 tonnes, surplus également pour le cobalt, 570 tonnes au lieu de 450 attendues. L'entreprise cherche à se construire aussi une usine d'acide à Lubumbashi au lieu d'importer ce produit de la Zambie. Roche Mining, filiale du Sud-Africa Metorex, est cotée à Johannesburg et exploite le cuivre et le cobalt à Roche, à Lubumbashi.
Et lancement au Bandundu, cette fois, à des travaux de balisage de rivières Kasai et Kwilu.
Le coup d'envoi de ces travaux a été donné hier par le ministre des Transports et Voies de Communication à Kandolo, un chenal rocheux situé en amont de la cité de Dima, à 12 km de Bandunduville. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la mobilité des bateaux sur ces rivières afin de permettre l'évacuation facile des produits agricoles et d'éviter de nombreux cas de naufrage.
Et on va retourner à Lubumbashi, peut-être pour terminer ces brèves nationales où il y a hausse des prix de l'huile de palme sur le marché local.
En 3 semaines, le bidon de 20 litres est passé de 15 000 à 25, voire 28 000 francs congolais. Les commerçants accusent la SNCC. Pour eux, c'est l'absence de trafic ferroviaire sur l'axe Kasai-Lubumbashi ou Kindu-Lubumbashi, ces derniers temps, qui est à la base de cette situation. Le directeur d'exploitation de la SNCC, lui, pense que son entreprise n'y est pour rien. Cela est dû tout simplement à la spéculation.
La nouvelle économique au bout du fil.
Nous retrouvons Donna Chimbo, en direct de Lubumbashi. Donna, les taxes divisent les autorités katangaises et Tinkepungurume Mining. TFM est accusé de ne pas verser les taxes au gouvernement du Katanga. En principe, la question de la redevance minière est réglée par le code minier. D'où vient le désaccord entre l'exécutif provincial et l'entreprise Tinkepungurume Mining, Donna?
Oui, Georges, ici, les politiques n'hésitent pas à parler de la mauvaise foi et des entreprises minières et de certains décideurs politiques du pays au niveau central. Pour eux, l'objectif, ils pensent, c'est de priver les Katangais des moyens pour exécuter leurs projets, car on revient toujours à la même chanson, à savoir la rétrocession. Et cette fois, ce n'est pas l'argent qui doit provenir de Kinshasa pour les comptes du gouvernement provincial, mais il s'agit plutôt de donner au Katanga sa part telle qu'elle savait par le code minier de la République démocratique du Congo. Eh bien, dans la plénière d'hier, Georges, l'on a lu à l'intention des députés la lettre adressée au mois de mars dernier par le ministre des Mines à son collègue des Finances, lui demandant d'inscrire les services qui doivent veiller au respect de cette clé de répartition. Mais jusque-là, rien n'est fait. Voilà qui cache les gouvernements de l'Assemblée provinciale du Katanga.
Et donc, le problème résiderait plutôt dans l'application de la loi.
Bien sûr, certains députés n'ont pas hésité à dire que la solution est plus politique que juridique. Il est question d'appliquer la loi minière qui prévoit clairement que 60% du montant total versé par l'entreprise au trésor public revient au pouvoir central et 40% à la province. Dans ces 40%, il y a une part qui revient à l'entité où est implantée l'entreprise pour son développement. Or, il se fait que dans les entreprises minières, quand les entreprises minières versent leur redevance au trésor public ici à Lubumbashi, on prend le sujet de Kinshasa, ce qui constitue un manque à gagner pour la province qui pense plutôt que ces sociétés ne paient pas leur redevance.
Est-ce qu'on a déjà une suite à ce bras de fer?
Oui, s'adressant aux députés provinciaux ce mardi en plénière, le président de l'Assemblée provinciale, Kungwa Kumwanza, a annoncé que le gouverneur du Katanga séjourne à Kinshasa depuis hier soir. Il a été reçu par le premier ministre à ce sujet. C'est peut-être Moïse Katumbi qui en dira long lui-même à annoncer le président de l'Assemblée provinciale du Katanga.
Merci beaucoup, Dona Timboge, pour toutes ces précisions et bonne soirée à Lubumbashi où l'on écoute Radio Kapi sur 95,8 MHz.
Bonjour.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Je suis Moussa Alkombe.
Jocelyne, la secrétaire d'État américaine est arrivée au Kenya.
Oui, George Hillary Clinton est arrivée aujourd'hui au Kenya. Première étape d'une tournée de 11 jours en Afrique. Ce mercredi matin, elle s'exprimera à Nairobi devant un forum d'une quarantaine de pays africains en relations commerciales préférentielles avec les États-Unis en échange de leur engagement à des élections libres et au libre échange.
Et en Angola, des hauts responsables seraient actionnaires d'une pétrolière.
C'est Global Witness qui les dénonce. Une compagnie pétrolière angolaise autorisée à soumettre des offres pour l'exploitation d'hydrocarbures dans le pays compte des actionnaires ayant les mêmes noms que des hauts responsables gouvernementaux, affirme l'organisation anticorruption.
Et le pétrole, puisqu'on en parle, le brut remonte un peu.
Enfin, des changes européens à la veille de la publication des stocks hebdomadaires du brut aux États-Unis. Le baril pour livraison en septembre a pris 53 cents par rapport à la clôture de ce vendredi à 74,8 dollars. Il a touché un nouveau plus haut depuis le 15 octobre à 74,36 dollars.
Merci pour toutes ces nouvelles, Jocelyne. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue dans cette seconde partie d'Écho d'économie avec un regard tourné sur Kinshasa.
Écho reportage.
L'éco-reportage à Kinshasa, où certains marchés naissent, se développent et s'imposent à des endroits parfois non indiqués. Ça commence par des friperies, des vêtements de seconde main, donc, comme on peut les qualifier. Ils sont de plus en plus vendus parce qu'on peut les appeler aussi comme marchandises de marché pirate. Curieusement, dans ces marchés, les services de l'État sont présents avec toute la gamme de taxes. Reportage de Kaziragi Kazadi rendu par Berry Luchak.
Nous sommes précisément à Kingabwa Isam, dans la commune de Limiti. Ici, c'est le marché Lola, connu plus souvent sous le nom de marché Isam, où l'on s'approvisionne en biens de toute nécessité. Mais à côté de ce marché, il se développe un marché pirate à plus ou moins 300 mètres. Selon les dames qui y rentrent, il n'y a pas de place à l'intérieur du marché. Mais malgré tout, elles refusent de baisser les bras. Elles vendent beaucoup plus la friperie et elles nous relatent les réalités de terrain. Où irons-nous? Cette question est relayée par les commerçants des autres communes de Kinshasa, la capitale, lorsqu'on sait que le marché pirate est la solution de survie. Le vrai problème demeure encore celui de la taxe. À en croire l'administratrice du marché Usam, la tâche semble facile pour les commerçants.
Dans la ville province de Kinshasa, nous n'avons qu'une seule taxe, la taxe d'étalage. C'est qu'il y a une taxe forfaitaire que nous avons fait le protocole d'accord avec les syndicats de vendeurs, l'administration et les vendeurs eux-mêmes.
qui revient à combien?
À 105 toujours.
La taxe d'étalage, 100 francs, c'est 2 francs.
Oui.
2 francs par
jour. Oui. Mais ce n'est pas chaque jour pour la salubrité. Seulement la taxe d'étalage, c'est chaque jour.
Peut-être qu'une solution sera trouvée au ministère provincial de l'économie et finances, parce qu'une série de réformes est annoncée, surtout en matière de marché urbain et marché pirate. Nala Mouloumé, directeur de cabinet du ministre provincial en charge de l'économie et finances, explique.
Au moment où je vous parle, nous sommes en pleine faveur des réformes secteur des marchés municipaux et des marchés urbains. Cette réforme va commencer bientôt et ça, c'est la voie du ministère. Elle pourra réguler l'ensemble de la question, non seulement de l'existence du marché pirate, mais de la manière dont les marchés municipaux et les marchés urbains sont gérés, quelles sont les taxes qui sont régulières et qu'est-ce qui ne le sont pas. À l'issue de cette réforme-là, nous voulons entendre que l'espace marché urbain ou municipal soit un lien de crise, soit pas un lien de tracisserie pour tous les exploitants du secteur.
Pourvu que ces revendeurs ne se plaignent plus dans la perception des taxes.
L'entretien de ce soir.
L'invité de l'économie ce soir est Adélard Minené. Adélard Minené, vous êtes le directeur, en tout cas le patron de la coopérative d'épargne Copec Imara, qui évolue très souvent à l'est du pays, mais aussi présente à Kinshasa et à Matadi. Et ce qui est nouveau chez vous, c'est que vous venez d'avoir plus de 400 membres en deux jours à Goma. Bonsoir Adélard Minené.
Oui, bonsoir. C'est vrai que... il y a plus de 400 membres qui ont adhéré. Ils étaient membres d'une association qui travaille dans le marché de Virunga. Alors, ils ont tous adhéré à la Copec Imara. C'est ainsi qu'hier, nous avions eu une classe d'éducation coopérative. Et bon, nous avons. Il fallait former tous ces membres-là qui ont adhéré massivement sur la gestion du crédit et le choix d'une activité générative de revenus. Eh bien, ces gens ont été formés pour qu'ils puissent aussi relancer les activités de production.
Alors, 400 membres en deux jours, c'est quand même énorme. Ça ramène à combien le nombre de vos membres à travers le pays?
Au niveau de Goma, nous avons plus de 2000 membres qui sont actifs au niveau de la ville de Goma. Bon, au niveau des autres coopératives primaires qu'on a implantées, qu'on a facilité dans la création au niveau du pays, nous pouvons compter dans les 40-45 000 membres.
Alors, est-ce qu'on sait aussi qu'avec la crise financière économique internationale, à un moment, les coopératives étaient en très très mauvaise position, mais est-ce que cette adhésion massive montre que les secteurs de microfinance commencent à se relancer petit à petit?
C'est vrai que la crise financière internationale a agacé les institutions de microfinance du pays, pas seulement du pays, mais presque partout au monde. Mais avec l'appui du gouvernement et surtout de l'autorité monétaire qui est en train de tout faire pour maîtriser cette crise, et nous sommes en train d'évoluer normalement et aujourd'hui la confiance aussi que la population est en train de donner à notre structure, c'est qu'à cette tribu, on vient de recevoir plus de 400 membres qui ont adhéré à notre coopérative.
C'est très encourageant, mais comment attirer davantage encore des membres?
Ok. Vous savez, si les membres viennent, ils décident d'adhérer massivement, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent déposer et retirer facilement leurs épargnes. Et ce qui est une spécialité au niveau de notre coopérative, nous sommes en train de tout faire pour que la liquidité immédiate soit là. Et nos membres qui déposent, ils retirent facilement. Et ceux-là qui ont sorti des crédits, ceux-là qui sont sur des crédits, reçoivent sans difficulté. Ce qui fait que la population continue à faire confiance à notre coopérative.
Mais il arrive parfois, pour certaines coopératives, que des membres même de la coopérative disparaissent avec de l'argent.
Bon, c'est vrai, mais ce n'est pas le cas au niveau de cette coopérative, parce que nous avons un service de crédit qui est compétent et nous avons des séances d'éducation coopérative. On amène le membre à respecter les engagements. Ce qui fait qu'au niveau de notre coopérative, les membres ne peuvent pas disparaître facilement parce qu'il y a une équipe d'agents de crédit qui se charge de suivi des dossiers de crédit et montage des dossiers de crédit. Et là, on sait localiser tous nos membres et voilà, depuis 1976, nous sommes opérationnels. Nous n'avons jamais eu un cas où un membre disparaît avec l'agent de la coopérative.
Tant mieux en tout cas, mais il y a aussi cette nouvelle façon de donner des crédits, on peut appeler new fashion dans les microcrédits. Ça s'est passé à Kindu d'ailleurs avec vos votre coopérative, au lieu de donner de l'argent, vous donnez maintenant des congélateurs, des tôles et même des groupes électrogènes. Alors, les microcrédits maintenant en nature.
Vous savez, chaque province a ses réalités. La route qui unit le dynamiquement à la province du Sud-Kivu est en très mauvais état. Et aussi, Manima et les Katanga, c'est vrai qu'il y a le chemin de fer, mais l'État n'est pas trop résilié. Donc, la ville est pratiquement enclavée. Et la population aussi a besoin de certains biens de première nécessité. Faut penser que, comme toute la population ne peut pas se déplacer sur Goma, ou Boutembo, ou partout ailleurs, la coopérative a toute cette responsabilité-là d'acheter et d'amener, mais sous forme de crédit, d'amener ces produits à Kindu, et distribuer ce qu'on devait crédit à la population. Et voilà, depuis qu'on a commencé, les membres remboursent normalement et ils sont en train de changer leur niveau de vie.
Adela Milene, je rappelle que vous êtes le directeur de Copec Imara. Merci beaucoup de nous avoir parlé dans cette émission Écho d'économie.
Comment tu vois ça?
Écho d'économie réalisé par Daniel Tambinzoni et Berry Luchaka, Jocelyne Moussaoupondé, sous la supervision de Ben Kabamba. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée et à demain.